23h19 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Amina, au 3921. Bonsoir Amina.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir.
Ravi aussi Amina. Nous nous étions parlé il y a quelques mois,
oui,
nous semble-t-il.
Tout à fait.
Vous pouvez nous rappeler dans quel cadre nous nous étions parlé, s'il vous plaît ?
C'était par rapport à mon histoire avec un pervers narcissique à l'époque et l'emprise qu'il avait sur moi. Et là, avec le recul, avec les mois, avec le travail que j'ai fait sur moi, je peux dire qu'aujourd'hui, je vois les choses différemment. Et je me dis tant mieux.
Mais alors, cet homme, en fait, dont vous parlez, vous vous étiez marié, arrivé en France à l'âge de 23 ans, c'est ça ? Vous étiez marié avec lui ?
Oui.
Il était d'origine algérienne, lui aussi ?
Oui, d'origine algérienne, mais lui, il était d'ici. Moi, j'arrivais du bled.
Oui.
Donc, le cliché.
C'était un mariage un peu arrangé ? C'était la famille
non, non,
qui...
Non,
pas
du
tout.
Pas du tout.
Ok. Vous vous êtes rencontrés comme ça ?
Oui, donc j'arrive en 2010, je découvre la France, je découvre la vie, je découvre monsieur.
Oui.
Et au fil des années, je me rends compte que j'ai vraiment... j'étais dans le fantasme, donc j'imaginais une vie. Après, j'étais confrontée à une réalité qui était loin d'être la vie que j'espérais.
Quel type de vie vous proposait-il ?
Type de vie, ben en fait, c'était par rapport lui à son vécu, donc j'étais plus ou moins traînée à son histoire. Il n'avait pas réglé son histoire d'enfance, donc et moi j'étais vraiment bon, je vous le dis maintenant, mais avant, franchement, c'était très très compliqué pour moi de tout décortiquer, de tout analyser, de tout comprendre. C'est pas simple quand on a la tête dans le seau.
Oui.
Et c'est surtout quand on est amoureux ou amoureuse, parce que voilà, le bouton il est sur off, donc c'est on voit rien, on n'entend rien, et même si on voit, on veut pas y croire. Et voilà, donc il avait une histoire. Moi, ce qui m'attirait chez lui, peut-être ce qui m'attirait chez lui, c'est ce qui nous a séparés, c'était sa fragilité. Et j'avais un petit peu ce côté infirmier de vouloir aider, de vouloir apporter de l'aide, être dans à son secours. Et je me suis rendu compte que c'était plutôt un gouffre. Plus je tendais ma main, plus lui, il me tirait vers le bas. Et j'étais sa bouée de sauvetage.
Son objet aussi, un petit peu, il vous...
Un petit peu beaucoup, oui.
Oui.
C'était son objet. Mais voilà, moi, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que j'ai du caractère quand même. J'ai fait des études, j'ai travaillé. Et je ne comprenais pas pourquoi il a réussi à manipuler. Et pour me détisser de tout ça, c'était pas évident pour moi. Parce qu'on avait des enfants en commun. Moi,
combien d'enfants vous aviez eu ?
Des jumelles et un petit garçon.
Mmh.
Donc j'idéalisais trop la vie de famille.
Oui. Bah, vous y avez cru. Vous y avez cru. Je pense que vous étiez amoureuse au début. C'est tout à fait normal.
Oui. Et après, on chemine pas de la même manière, on réagit pas de la même façon face aux épreuves, face à la vie. Et on est issu d'origine. Après, je dis pas que c'est les origines qui ont joué le jeu. Je pense que c'est plutôt le côté ou la dimension psychologique.
Vous dites que quand vous avez eu votre première fille, donc avec lui,
oui.
Fille handicapée, c'est là que vous avez découvert qu'il n'était pas celui que vous aviez rencontré au départ. Qu'entendez-vous par là ?
Bah, c'est en fait, c'était la révélation. C'était pas en soi parce que tout le monde disait oui, le fait d'apprendre qu'il a une fille handicapée, c'est ça, c'est difficile, c'est le tsunami pour le couple, c'est pas évident, c'est une épreuve. Je voulais bien les croire, mais en même temps, le comportement, il collait pas. C'était disproportionné. Et à chaque fois, je le voyais s'effondrer, je le voyais pleurer, se mettre dans tous ses états, je me disais, mais attendez, c'est lui le père, mais c'est moi la maman. Je me
Oui.
culpabilisais. Je disais, mais que c'est pas normal, je suis la maman et je me mets pas dans tous ces états. Et en fait, après, je l'ai compris. Ce que je faisais, peut-être inconsciemment, c'est j'ai vu qu'il était fragile, j'ai vu qu'il était faible. Et le fait de montrer une faiblesse de ma part, j'avais peur qu'il s'effondre davantage. Donc, il fallait tout le temps être la forte, être debout, ne pas montrer mes faiblesses. C'est un travail fastidieux, c'est pas simple. Mais voilà, c'était comme ça.
Mais en fait, il se culpabilisait, en fait, cet homme en permanence. Il voulait que vous le plaigniez, en fait. C'était une manière de vous attirer vers le bas, je pense.
Oui, attiré vers le bas, et en même temps, j'étais sa maman.
Oui.
J'étais sa maman, pas la maman biologique, mais comme il avait des problèmes avec sa maman, il a été rejeté par la mère. Donc, j'étais la maman, j'étais sa maman, et le fait d'avoir des enfants en commun, ça le dérangeait. Il fallait tout le temps, en permanence, le materner. Et je n'ai pas compris, moi. En fait, il me donnait des signes, mais franchement, c'est pas évident de tout
Mais
comprendre.
non, tout de suite, comme nous dit Agathe au 739-21, ça prouve à quel point la manipulation n'a rien à voir avec l'intelligence, mais avec nos affects, vous dit-elle, avec les profondeurs des sentiments. Agathe vous dit que vous avez fait un chemin incroyable pour en parler, comme vous le faites ce soir, Amina, et vous avez cheminé depuis. À l'époque, est-ce que vous vous en êtes entretenu avec quelqu'un, je ne sais pas, avec votre famille? Est-ce que il y avait, vous étiez supporté par votre
Entouré,
famille, entouré?
oui. Là,
Et que
ça
disait votre
fait.
famille alors?
Ben, ma famille, au départ, ils ne comprenaient pas du tout la maladie. Ben, pour eux, il y a une famille, les clichés, ben, il faut patienter pour ses enfants et tout. Mais moi, je voyais que il y avait quelque chose de malsain dans la relation. Je ne comprenais pas. Et en même temps, je trouvais pas l'issue. Je me débattais, je pataugeais, mais c'était pas simple de m'en sortir parce que j'idéalisais trop la vie de famille. Pour moi, c'est énorme. C'est des années, je cumulais des années. Chaque année, je dis c'est une année de gagner avec lui. La vie est vraiment. On est très loin de la plaine, plein de papillons, de licornes. La vie n'est pas comme ça. Donc, j'étais consciente, mais en même temps, j'agissais pas peut-être de la bonne manière, parce que voilà, j'étais dans l'empathie, mais c'était pas réciproque. Donc, après, ça marche pas quand c'est pas réciproque. Mais je comprenais pas, je dis, plus je donne, peut-être ça va le faire réagir. Mais non, plus je donne, plus il voulait m'enfoncer, plus je donne. Là, aujourd'hui, peut-être si vous m'auriez posé la question avant, oui, comment il était, c'est quoi les soucis dans votre vie, j'aurais peut-être tendance à vous dire oui, j'étais manipulée, oui, j'étais la victime, oui. Mais comme moi, j'aime pas le di discours de victimisation, j'ai pris vraiment le temps à revoir ma vie différemment et vraiment me dézoomer un petit peu de tout ce décor-là et voir pourquoi j'étais manipulée. C'est facile de pointer du doigt l'autre, mais le plus dur, c'est vraiment, comment on dit, d'apprivoiser ces zones d'ombre. Donc je me dis aujourd'hui que peut-être j'étais pas assez armée, j'avais pas de clarté en moi, c'est pour ça que j'étais manipulée.
Mais est-ce que quelqu'un vous a mis les yeux vraiment, je dirais, en face des trous, hein, un peu vulgairement, mais est-ce que quelqu'un vous a mis le nez sur sa façon de se comporter, parce que vous n'aviez pas l'air de comprendre globalement, entièrement, ce qu'il était, cet homme-là. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment? Est-ce que c'est venu par une tierce personne?
Le déclic, c'était juste après la séparation. Ben, monsieur, il était vraiment dans la victimisation. C'était moi la femme fatale, c'était moi la femme qui voulait pas obéir l'homme bah, oriental, même si on n'est pas...
On n'est pas en Orient.
On n'est pas... oui. Et ce qui m'a fait vraiment secouer, c'est qu'il était vraiment dans la perversion, parce qu'il a porté plainte, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a porté plainte contre moi. Et cette plainte-là, elle m'a fait vraiment ouvrir les yeux, parce qu'il voulait qu'on continue ensemble. Il m'a fait comprendre que c'était un électrochoc pour nous, pour le couple. Mais c'est moi qui a subi cette plainte-là. Donc, à sa place, j'aurais pas fait ce qu'il a fait.
Mais il a porté plainte pour quoi, en fait ?
Bah, parce que en fait, quand on avait à l'époque des échanges, il se comportait exactement. Il avait un schéma, qui est sa famille, son père, et ils avaient des façons de faire. Donc, ils pouvaient m'enfermer dans une pièce, et à n'importe quel moment, il fallait obéir à ses. Ces deux mondes.
Mais comment ça? Il vous enfermait dans des pièces
Il m'enfermait, par exemple, il m'interdisait, il me dit « je veux te parler » à 2h du matin, 3h du matin, il n'était pas bien, il fallait qu'on discute, il fallait qu'on échange.
Ah oui, il était bien, bien, bien atteint quand même.
Oui, il pouvait me bâillonner la bouche.
Ah oui, oh là là.
Ouais, donc voilà, et je me débattais. Un jour, c'était la fois de trop, je l'ai mordu. Mais cette fameuse morsure, je l'ai bien payée. Donc, on ne parlait pas des années où il pouvait m'enfermer. On ne parlait pas du tout de la violence invisible que je pouvais subir, de la violence tout court, parce que c'est de la violence de m'enfermer,
bien sûr.
De la séquestration, de m'interdire de voyager. Enfin, bref, de m'isoler de mes copines, de mes voisins, de mon entourage, de ma famille. Donc tout ça, c'était ma vie à l'époque.
Et vous dites qu'il a porté plainte contre vous, donc il a essayé... Est-ce qu'il a essayé de vous embêter avec les enfants?
Une fois, oui, il a su que je demandais le divorce, donc il ne voulait pas du tout.
Oui, parce que j'allais vous poser la question, comment l'avez-vous quitté, en fait? Mais dites-moi pour la plainte pour les enfants, déjà.
C'était très, très chaotique. Il m'a dit, en sortant de là où j'étais, parce que c'est compliqué un petit peu de revenir à cette période-là. Il me dit, t'es pas une mauvaise maman. T'as été jugée par rapport à la morsure, mais t'es pas une bonne maman, une mauvaise maman. Donc, vous voyez le discours. Donc, il voulait faire comprendre, oui, j'étais une bonne maman. Mm-hmm. Oui, ça n'a rien à voir avec les enfants, que j'étais quelqu'un de bien, mais voilà. Ça arrive que lui, il a eu pareil, une fois une garde à vue, que sa mère, que son père, que son... Et je sais pas, toute sa famille. Mais je pouvais plus entendre ce discours-là. Et là j'ai compris qu'il y a un gros, 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 sérieux problème. Donc, par rapport aux enfants, lui, il était démissionnaire, donc...
De toute façon, il n'avait pas envie de s'occuper de ses enfants, cet homme-là, non?
Non, c'était un petit gamin. C'était un petit enfant qui voulait qu'on s'occupe de lui. Mm-hmm. Et il prenait vraiment de l'espace. Et les enfants, ils le dérangeaient.
Vous n'avez pas eu peur?
De lui?
Oui, lorsque vous l'avez quitté. Parce que souvent, ce type de personnalité peut s'avérer tordu. Hein,
Je sais, il a été, mais j'étais vraiment déterminée à me prendre en charge.
D'accord, il ne vous a jamais menacé, il n'a jamais essayé de vous faire peur.
Si, mais voilà, c'était pervers. Je m'attendais à ce qu'il pouvait me faire. Par exemple, à chaque fois, il fallait solliciter le juge des enfants pour des démarches vraiment basiques du quotidien, parce que monsieur, il se reposait. Mais voilà, j'étais vraiment prête à mener cette
bataille, en fait, parce que c'est
bataille,
une bataille.
Oui.
Alors aujourd'hui, vous allez mieux, Amina. Vous m'avez appelé et donc raconté d'abord à Florian que vous avez eu des séances de médiation avec votre ex-mari.
Oui.
Elles ont servi à quoi, ces séances de médiation ?
C'était plutôt par rapport au couple parental, parce que le conjugal, il n'existait plus.
Mmh.
Lui, il tenait vraiment à ce que j'assiste à ces séances-là, parce que voilà, il maintenait un lien avec moi, un lien toxique, joyeux, un lien, peu importe, l'essentiel, il a ce lien-là. Donc, il avait peur de tout perdre. Donc, il s'accrochait tant bien que mal à ces séances-là. Moi, le but de ces séances-là, c'était par rapport à mes différentes réclamations au profit de mes enfants. Donc, c'était pas un bonheur d'aller le voir, parce que les séances de médiation pouvaient durer 3 à 4 heures.
Mm-hmm.
Donc, c'était énorme.
3 à 4 heures,
La médiatrice, une fois, m'a dit j'ai battu le record avec vous. Bah, tellement il était dans la rigidité, la psychose, enfin, il y avait une maladie. Et au tout début des séances de la médiation, elle voulait me faire comprendre que voilà, c'était vraiment indifférent d'origine, de façon de voir les choses. Mais au final, elle a vu que j'étais déterminée à vraiment, j'avais une véritable volonté pour comprendre ce qui ne marchait pas, ce qui n'a pas fonctionné dans le couple. J'avais besoin, et après elle a fini, la médiatrice, par me parler des vraies raisons
de votre séparation, de votre envie de ne plus continuer. Vous dites qu'il conserve une emprise, il essaie de conserver une emprise sur vous aujourd'hui. Comment s'y prend-il ?
C'est à travers les enfants, parce qu'il a bien compris qu'il ne pouvait pas m'atteindre. Donc c'est à travers les enfants, à travers ce que je peux demander pour les enfants. Par exemple, mon fils qui est dans l'hyperactivité, donc... j'avais besoin, ou même l'équipe éducative avait besoin de comprendre ce qui n'allait pas, donc un bilan s'imposait, et monsieur s'y oppose systématiquement à ce genre de démarche. Donc au quotidien, ça a été vraiment très 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 compliqué. Donc chaque démarche, il fallait passer par monsieur refusait, il fallait qu'il présente ses arguments, moi de mon côté, solliciter mon avocate, et après le juge, c'est pas évident.
Il va continuer encore un moment à vous embêter, hein, à mon avis.
Oui, il continue, il sait que je tiens bon, il sait que j'ai compris un petit peu son manège.
Oui.
Et il sait que...
vous avez compris le mécanisme.
J'ai bien compris le mécanisme. Avec le recul, c'est un travail que j'ai fait sur moi, d'introspection. Donc, le fait de me comprendre, je ne lui laisse plus le temps de m'atteindre.
Qu'est-ce que vous avez compris de vous, Amina ? Dites-moi.
J'ai compris qu'il fallait vraiment être en osmose avec soi-même, être vraiment... en paix avec soi-même, être rempli, être pleine, et être tout court soi-même.
Être déterminée, sinon, aussi, j'ai l'impression.
Être déterminée, être vraiment très, très, très forte. Parce que c'est facile de dire oui, on peut se jeter comme ça des qualités, mais une fois confronté à la vraie vie, je vous... Je vous assure que ce n'est pas du tout évident. J'aimais bien un proverbe de Sénèque. Il disait la vie. Attendez, comment il dit? Il disait la. La vie, ce n'est pas attendre que l'orage, il me semble, parte. La vie, c'est apprendre à danser sous la pluie. Vivre, oui, vivre. Ce n'est pas. Donc, moi, j'ai appris à danser sous la pluie.
C'est génial, super.
Ouais.
Bon, vous allez bien aujourd'hui. Comment vont les enfants?
Les enfants, ils vont super bien.
Ouais.
Ils sont scolarisés, donc ce n'était pas spécialement le cas quand je vous ai appelé.
Oui, oui.
Ouais.
Ils ne le voient pas trop, en fait.
Si, si. Si,
si.
Mais, oui, si.
Et ça se passe comment avec lui, donc, eux?
Je dirais... il m'appelle, il m'envoie des messages. Est-ce que je peux les récupérer? Est-ce que je peux lui donner des astuces? Il ne comprend pas comment, des fois, gérer un caprice. Donc, il n'hésite pas. Et voilà, j'ai ma petite donc, qui a compris qu'il ne va pas bien. Mais
oui.
Voilà, elle n'a pas les mots pour...
Quel âge a-t-elle, là, maintenant?
8 ans et demi.
Elle doit comprendre des petits trucs à 8 ans et demi.
Elle doit comprendre. Elle parle avec sa sœur, son petit frère, sur son comportement, sur le fait qu'il ne cherche pas spécialement à les récupérer et tout.
Mm-hmm.
C'est compliqué, mais en même temps, j'ai demandé, pareil, j'ai sollicité le juge des enfants pour lui faire un suivi psychologique. Bien évidemment, vous en doutez bien qu'il allait se surposer. Donc, et j'ai rassemblé des preuves pour avoir gain de cause. Et j'ai obtenu gain de cause.
C'est génial. Vous avez obtenu gain de cause sur quoi, alors, dites-moi?
Sur pas mal de choses. Sur, par exemple, là, le suivi psychologique. Donc,
oui.
Il ne comprenait pas pourquoi le papa, il ne voulait pas que sa fille... un suivi psychologique, alors qu'elle est très jeune, elle vit une séparation qui n'est pas simple, il y a l'handicap, donc sa sœur jumelle qui a un handicap, donc c'est lourd pour un enfant. Imaginez-vous, nous on est adultes, on a du mal à comprendre, mm-hmm. à vivre certaines choses, alors là, un petit enfant...
Oui, oui. C'est tout de même dur, hein, à 8 ans et demi, de déjà vivre ça, je trouve, mais bon... C'est la vie qui en a décidé ainsi. Bon, bah, en tout cas, je suis ravi de savoir que vous allez beaucoup mieux, Amina. Vous avez vraiment bien fait de nous appeler pour nous donner toutes ces bonnes nouvelles. Vous n'hésitez pas, hein, à nous appeler quand vous voulez.
Hein.
Vous savez où nous trouver. Hein.
Oui.
Et puis c'est bien parce que ce soir, je pense à toutes ces femmes qui vous écoutent et qui sont encore sous la joute d'hommes comme ça, capricieux, d'hommes qui... d'hommes enfants qui ne savent pas trop où ils vont et qui, dès la première occasion, font porter le chapeau à leur femme. Souvent, hein, la faiblesse déclenche ce type de comportement. Hein. C'est de ta faute, c'est toi qui as voulu avoir des enfants, on était bien tous les deux avant et tu as voulu une grande famille. Et toujours tu, c'est de ta faute. Enfin bon, c'est et finalement en vous écoutant, on se rend compte qu'il y a pas mal d'hommes qui sont comme ça. Pas tous, hein, bien évidemment. Il y en a des très bien, mais il faut se méfier aux premières situations comme celles que vous nous avez décrites. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a un problème. Parce que vous voyez, vous avez mis un certain temps, vous, Amina, hein, et vous l'avez fait toute seule, ça, finalement.
Oui, oui, oui.
Mais oui.
Oui, tout à fait. Mais voilà, la vie nous offre pas spécialement des cadeaux, mais on est là. C'est notre vécu. Dernièrement, j'avais une amie qui subissait pareil le même type de mec. Mmh. Et j'étais là pour elle, et ça m'a fait vraiment un grand plaisir de l'aider, de pouvoir vraiment lui expliquer les choses. Bon, c'est une petite expérience, enfin c'est une petite expérience, donc de ce que je pouvais lui apporter. Mais voilà, Elle était pareille, elle était jeune quand elle est arrivée ici en France, à 17 ans, donc elle n'a même pas eu le temps de se construire. Donc de l'âge ado, je dirais, parce qu'on reste ado, hein,
Oui,
même si on est...
ouais. On a une partie d'ado encore. Dieu merci.
Oui. Et après, arrivée ici, elle ne comprenait pas, pareil. Donc, je l'ai vraiment épaulée. Et je ne regrette pas du tout. Son mari me voyait de travers, mais je dis, voilà, ce qui s'est passé pour moi, je ne laisserai pas... surtout qu'elle est juste... c'est une amie, c'est une voisine, et je ne pouvais pas la voir souffrir comme ça.
Alors, pour son mari, vous avez dû devenir la copine qui avait la mauvaise influence sur elle.
Bah, c'est ça.
Ouais. C'est exactement ça, oui. C'est très bien. Très bien, Amina. Ben, oui. Merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles de temps en temps. Ça nous fera plaisir, d'accord ?
À vous. Merci.
Embrassez les enfants pour nous et on vous embrasse bien fort.
C'est très gentil.
Au revoir.
Merci. Au revoir.